C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Transmettre ce que l'on m'a transmis, la beauté et la profondeur des paroles d'Océanie. Salut, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, nous partons loin en Océanie, sur la fameuse île de Pâques, à la rencontre de celle qu'on surnomme « celle qui va sur le dos du vent », la conteuse Céline Ripoll. Elle présentait son spectacle « Aka Manu, la danse de l'oiseau » au Festival du Légendaire, organisé par Pascal Folliot. Et Anne-Gaël Gonuchot en a profité pour l'interviewer. C'est l'heure du déjeuner. On entend l'ambiance du théâtre et du hall, et Céline raconte son parcours. La mythologie et la légende dansent avec la réalité, et quelquefois, une cassette audio suffit pour déclencher cela. C'est pas pour dire, c'est parti pour une heure en compagnie de Céline Ripoll, et c'est une autre globe conteuse qui tient le micro. Alors, paré au décollage.
On chanterait puissante massie, tu te dresses, il démarque le souffle des mots de tes anciens. Mateo Calo, par moi reviens, ô Atea, à ta noix, imona, taïate mata.
Vous êtes là? Je ne suis pas sûre.
Je suis là, vous êtes là. Très bien, si ça marche.
Si on me demande mais pourquoi tu racontes des histoires, je dirais c'est parce que... c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. Les histoires sont... C'est ce qui m'a permis de tenir. Toutes ces années, donc c'est des vrais trésors, c'est des amis, des sœurs... Alors, où partons-nous aujourd'hui?
Eh bien, pour cette émission, c'est pas pour dire.
Oui, c'est vrai. Qu'on voudrait pas le dire, mais...
On voudrait pas le dire, mais quand même.
Ah, quand même, bon.
Bon, t'es conteuse, donc?
Eh bien, oui. Mais je m'en suis rendu compte... tiens, c'est le cas de le dire, je m'en suis rendu compte. Il y a une vingtaine d'années, en 2002, j'ai commencé... avec quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Gilles Bisouerne. Et oui, Gilles Bisouerne a eu cette intuition magnifique, cette opportunité même qu'il a donnée à beaucoup de monde de ma génération de démarrer le conte au conservatoire du 12e arrondissement. On avait une formation, une heure et demie, un jour et demi ou deux jours par semaine, le jeudi, le vendredi. Ouais. Pendant 6 mois.
Dans les conservatoires, des gens qui abordent le conte, c'est pas si courant que ça.
Ben non, c'était même unique. Et en plus, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que c'est un accompagnateur, véritablement. Il ne te forme pas, il t'accompagne. Alors c'était très perturbant puisque moi je ne connaissais pas le conte. J'étais designer. J'avais travaillé la terre, travaillé le verre. Et puis là, je travaillais pour un designer de luminaires qui bouge son entreprise sur Uzès, dans le Gard. Et puis, ben, je m'ennuyais. Hein. Moi, j'avais fait des années à Paris, j'adorais Paris. Donc, on est dans le Gard, je m'ennuie. Et puis, je vois qu'il existe un cours de théâtre. Cours du soir, théâtre. De toute façon, tout le monde m'avait toujours dit, Céline, il faut que tu fasses du théâtre, tout ça. Alors, j'ai dit, ben, tiens, je vais faire, pour une fois, je vais faire un peu ce que les autres ont dit. Je vais faire du théâtre. Et puis, ben, forcément, ça ne me plaît pas. Il fallait apprendre par cœur des textes, des trucs d'une époque. De toute façon, apprendre par cœur, je ne pouvais pas. Et puis, il y a une fille dans le groupe qui me dit, bah, Céline, j'ai l'impression que ça ne te plaît pas, le théâtre. Alors que la prof, c'était une ancienne de l'Académie française, elle me disait, Céline, tu dois faire du théâtre, va à Paris, va dans les conservatoires. Et l'autre, elle a dit, bon, j'ai bien vu, oui, ça ne te plaît pas. Bon, moi, j'ai une cassette, si tu veux. Tiens, écoute, c'est du conte. Ah, tu vois, bon, tiens. Je remontais à Paris, donc Uzès Paris, c'est quand même 8-9 heures de voiture. Et je mets la cassette. Et là, il y a une femme qui raconte une histoire d'une femme qui ne va pas très bien et qui s'en va dans le sud de la France faire la céramique. Et puis tout d'un coup, elle va à Caudec. Et quand elle va à Caudec, il y a une gitane qui lui dit « J'ai quelque chose à te dire sur toi. » Et moi, cette phrase-là, il y avait une femme, une gitane, qui me l'avait dite quelques mois auparavant, qui était rentrée dans la boutique de design où je travaillais. Elle m'avait dit, ah, c'est beau, les lumières que vous faites, tout ça, c'est beau. Puis elle me regarde et me dit, j'ai quelque chose à te dire sur toi. Et elle me dit ça. Et ça faisait une semaine exactement qu'on venait d'enterrer mon père. Et le jour où on a enterré mon père, dans la voiture où on suivait le cercueil, j'ai une tante, donc, enfin, oui, une tante de mon grand-père, bon, bref, qui me dit que mon grand-père, qui me raconte toute une histoire, mon grand-père, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se met dans la marine, on était des pieds noirs, donc venus d'Algérie, se mettent dans la marine se saborde à Toulon, tout le monde disparaît. Il disparaît et il y a une gitane qui arrive dans la maison de l'arrière-arrière-grand-mère et elle dit « J'ai quelque chose à te dire sur ton fils. » Et donc moi là, en l'espace d'une année, même pas, ça fait 3 fois que j'entends
cette phrase.
Alors bien sûr, je me mets à trembler de partout, tout ça. Il y avait 1 heure d'autoroute, je vais sur l'autoroute, je garde la voiture, je pleure, forcément. J'arrive à Paris, je dis à mon compagnon, « Ah, écoute cette cassette, c'est une cassette magique !» Alors lui, il écoute, Ok, je redescends pendant 9 heures de voiture, je remets la cassette, j'écoute l'histoire, et puis arrivé au cours suivant de théâtre, c'était le mardi soir, je me rappelle, j'arrive à l'affiche, je dis, « C'est quoi cette cassette ? Une cassette magique !» Elle me dit, « Mais non, c'est la plus grande conteuse de France. » Je dis, « Mais non, elle raconte ma vie !» Elle me dit, mais non, c'est normal. Quand Catherine Zacat raconte une histoire, t'as l'impression que c'est ton histoire. Je dis, mais oui, mais c'est mon histoire.
Bienvenue. Bienvenue dans ce voyage qui va nous emmener de l'autre côté de la planète. Bienvenue dans ce voyage qui va nous emmener au milieu de l'océan Pacifique, sur les îles Marquises. Les îles Marquises, certains connaissent peut-être. Pour les plus jeunes, vous verrez plus tard, il y a un peintre qui s'est arrêté là-bas, qui s'appelle Gauguin. Puis il y a un chanteur, alors pour nous c'est un chanteur, pour vous c'est moins un chanteur, qui s'appelle Brel. Voilà, ils se sont arrêtés sur une île des Marquises, des îles des Marquises, il y en a plusieurs, c'est un archipel. Ils se sont arrêtés sur l'île de Hivaoa. Magnifique invitation, venir ici et raconter sur le thème de la résistance. Alors, comment est-ce qu'on peut résister ? On va résister comme ça. Comment est-ce qu'on peut résister ? On peut aller manifester. On peut aussi aller voter. Et puis, aux Marquises, il y a 40 ans de cela, il y a un homme qui a décidé de résister autrement. Cet homme, il s'appelait Ro'o Kimitete. Et Ro'o Kimitete, marquisien, n'avait pas le droit de parler sa langue. Il y avait la France, il y avait Tahiti, et Tahiti avait décidé que sur les archipels, aux Marquises, aux Australes, au Tuamotu et au Gambier, on ne devait parler que français et que tahitien. Ro'o, lui, il a dit non, Aïta et A. Moi, j'ai une langue, et ma langue, c'est le marquisien. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux. Quand James Cook est arrivé, 1774, il estime les Marquisiens à peu près à 100 000 sur toutes les îles. 150 ans après, il en reste 2500. Mais quand même, la langue était restée. Même si on avait demandé qu'il ne parle plus, dans le fond des vallées, secrètement, on se transmettait les chants, les danses, les légendes, et tout ça dans leur langue. Là, on est dans les années 80, 1980. Certains étaient nés, se rappellent, d'autres n'étaient pas nés, mais vous vous rappellerez un jour quand même. Ça fait partie de nos mémoires. Et les Marquisiens sont exceptionnellement invités à un festival. Et Ro'o, il dit, moi, je ne danserai pas une danse tahitienne. Je suis marquisien. J'ai ma langue. Mes ancêtres ont chanté le soleil qui se lève. Mes ancêtres ont chanté le monde pour le créer.
C'était comme ça que Céline Ripoll ouvrait le spectacle Akamanu, la danse de l'oiseau, au Festival du Légendaire, près de Chartres. C'est pas pour dire, Céline Ripoll en compagnie de Angel Goduchaud.
Six mois après, je démissionnais, je rentrais à Paris, je voulais rentrer au conservatoire pour faire du théâtre. Ma prof m'avait persuadé qu'il fallait que je rentre à l'Académie française. Enfin, il y a du chemin avant, mais... Et dans la liste des conservatoires, figure-toi que tout en bas, le dernier, il y avait un point où il y avait marqué « Conservatoire du 12e, Comte ». Et là, je dis « Ah, ouais, c'est l'histoire de cette dame ». Je téléphone pour passer donc là... l'audition, et puis là j'ai un monsieur au téléphone, donc Gilles, et qui dit ouais, très bien, rendez-vous demain au café du Père Lachaise, et puis vous me racontez une histoire.
Ah d'accord,
Ça se faisait comme ça.
Ça se faisait comme ça. Ah bon? Je ne savais pas. Donc j'y vais. Alors déjà toute la nuit, je me dis, mais je ne connais pas d'histoire. Qu'est-ce que je vais raconter? Je me rappelle vaguement d'une histoire que ma mère me racontait sur une fée avec des cheveux en or. Alors, je me suis dit, bah, tiens, je vais détacher mes cheveux. Peut-être que tu vois, je vais avoir une place. J'arrive au café du Père Lachaise. Bonjour, allez-y, racontez-moi votre histoire. Alors je raconte cette histoire et tout. Et donc bon, pour ceux qui connaissent Gilles... Il rigole. Ah, il me fait « Ah ouais, je la connais pas cette histoire, c'est quoi ?» Ah, je lui dis « Bah non, c'est ma mère qui m'a raconté ça. »« Ah ouais ? C'est quoi ton conte préféré ?» Je dis « Bah, j'en connais pas. »« Ah bon ?» Il me dit « C'est qui ton conteur préféré ?» J'ai jamais vu de conteur. » Elle me dit « Tu connais pas d'histoire ? T'as jamais vu de conteur ? Tu veux faire du conte ?» Et je dis, en fait, voilà. Et je raconte l'histoire de mon grand-père, mon histoire à moi. Et puis cette femme-là qui me passe cette cassette. Et puis j'ai dit, il paraît que c'est la plus grande conteuse de France. Elle s'appelle Catherine Zacat, tu connais? Il rigole, il me dit, ouais, c'est bon, tu viens avec
Allez,
moi.
Viens.
Et c'est comme ça que j'ai démarré.
Comment devient-on conteuse? C'est pas pour dire aujourd'hui, parfumée aux fleurs de tiare, Céline Ripoll au micro de Angèle nous raconte son parcours.
Comme tu disais tout à l'heure dans ton spectacle, on va aller vite, mais je me souviens d'une histoire que tu m'as racontée un jour.
Oui.
Donc, tu as entendu cette histoire de l'homme...
Nicorim, à moitié tatoué.
À moitié tatoué, racontée par... Une autre conteuse.
Oui, Annie.
Annie Kiss. Et tu vas la voir et tu lui dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donne-moi cette histoire, est-ce que je peux... Et elle te dit...
Non.
Non. Aujourd'hui, elle dit, j'ai jamais dit non à personne, mais d'où ça sort? Et c'était quand même vraiment bien qu'elle te dise non.
Mais de toute façon, il faut dire oui à tout. Justement, même quand on te dit non, ouais. tu prends.
Ouais.
C'était extraordinaire, justement, je savais raconter des histoires, je voulais les raconter, mais je ne savais pas quoi raconter. Et puis Gilles me dit, écoute, on fait une réunion de conteurs, on va se raconter des histoires, mais on va bosser sur les épopées, avec un monsieur Bruno de la Salle. Ah bon, je ne connaissais pas, de toute façon, je ne connaissais personne. Alors, on est en 2002, et puis il me fait travailler sur les mille et une nuits. Je ne connaissais pas non plus trop, bon bref... Et puis, effectivement, on présente chacun une histoire. Et Annie raconte l'histoire de ce guerrier au visage à moitié tatoué qui danse pour défendre son village. Et puis, ils se bagarrent tout le temps, ils se bouffent entre eux, tout ça. Ils ont des noms compliqués, on ne comprend rien, on ne peut même pas les prononcer. Et puis Annie, elle disait, tu vois Bruno, tu veux que je raconte des histoires qui me bousculent? Ça va me bousculer. Sauf que moi, je vois physiquement l'histoire m'arriver dessus et me dire, c'est moi que tu vas raconter. Et donc, effectivement, je lui demande, elle m'a dit, non, c'est moi qui ai le livre, c'est un vieux livre, puis il y a un truc qui s'appelle la charte des conteurs, et donc la charte des conteurs, quand un conteur a une histoire, on ne lui prend pas...
On lui demande, on pourrait dire, mais...
Mais même si elle n'avait pas envie de travailler là-dessus, quand même, c'était à elle. Bon, peut-être, moi, je ne savais pas. On dit, c'est ça la règle, je respecte la règle. Et j'ai cherché des Polynésiens, puisqu'elle avait dit que ça venait de Polynésie.
C'est ça, je me souviens que tu m'avais raconté ça en disant « Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller la chercher. »
Je vais aller la chercher. Et donc, je vais à la rencontre de Polynésiens. Je ne savais même pas à quoi ressemblaient les îles. On n'avait pas Internet. Hein. Il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et puis, à la suite de cette rencontre qui avait été difficile, puisque j'avais rien fait, j'avais fait un truc minable... Je me suis inscrite dans une formation de 2 ans de clown et de cirque pour travailler à Paris, pour travailler l'art de la scène.
Tu dansais déjà ou pas?
Non, pas du tout.
Non.
Parce que... Je n'avais jamais mis les pieds sur scène.
Oui.
Jamais. Et donc, je fais du clown avec la rigueur du cirque, répéter son numéro, trouver le décalage et en même temps la performance, mais en même temps la présence.
Mmh.
Bref, comme du cirque et comme du clown, il faut te casser pour que ça soit vivant. Donc je suis sortie de là.
Cassée.
Ouais. Cassée, mais même personnellement, je veux dire, c'est là que je dis que Gilles est vraiment un accompagnateur, parce que les autres, casus cas personnellement, sur des choses personnelles qui n'ont rien à voir, mais je ne connaissais pas ce monde. Donc.
De la mer. Et il a appelé ses racines, les racines profondes, les racines du monde. Et il a nommé le monde. Herpo! Herpo, quittez-nous! Arrête couronné! Première île est apparue, Wapo. Sur les deux poteaux, pour construire la maison, il a mis une gigantesque poutre. Orivaoua. Et Rivaoua est apparu. Sur cette poutre, pour faire le toit, il fallait joindre d'autres poutres, liées, Nuku. Lier les poutres, Nuku Riva. Et Nuku Riva est apparu. Il fallait un toit. Il a tressé. Fatu Riva, il a nommé. Fatu Riva est apparu. Il y avait quatre îles. Wapo, Riva Uwa, Nuku Riva, Fatu Riva. Et ben voilà, la maison était faite. Bon, c'est simple, hein, en fait, hein, quand on sait faire. Et bien sûr, il y a toujours un petit oiseau qui vient chanter. Dès qu'on travaille, il y en a toujours un qui vient chanter à côté. Il est arrivé. Oh, il l'a vu, ce petit oiseau, et il lui a dit, « Hey, Omorotani !» Une île, Morotani, est apparue.
Akamanu, la danse de l'oiseau. Une histoire rare collectée par Céline Ripoll auprès des Marquisiens. Une invitation à naviguer sur les rivages des îles d'Océanie. C'est pas pour dire. Anne-Gaëlle Goduchot et Céline Ripoll, Festival du Légendaire.
Je n'avais pas ce fameux statut d'intermittente du spectacle, j'étais au chômage, puis j'arrive en fin de chômage, plus d'argent, et donc je fais la plonge sur des péniches. Et là, j'entends un serveur, « Ouais, je m'en vais faire un concours de pirogue ce week-end à Marseille. » Je lui dis, « Pauvre tâche, c'est pas à Marseille que tu dois faire de la pirogue, c'est à Tahiti. » Et il me dit, « Mais je suis née à Tahiti. » Je lui dis, mais alors tu connais cette légende, on a dû te la raconter quand tu étais petit, Nicolima, le guerrier au visage à moitié tatoué. Il me dit, je suis descendant de ce guerrier. Je dis, vas-y, raconte. Il me dit, je connais pas. Et puis il ouvre sa chemise, effectivement, il avait la moitié du torse tatoué. raconte. Il me dit, non, mais ma famille là-bas connaît l'histoire. Et j'ai fait ce qu'on appelle un défi jeune à l'époque, c'était le conseil
oui,
général,
oui. Il fallait faire un tu pouvais dossier. Avoir une bourse pour...
28 ans, c'était la dernière année, et il y a une qui a dit d'accord. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était Tahiti dans la tête des gens. Et puis elle m'a dit d'accord, on a fait le dossier, j'ai presque eu ma bourse en entier. J'ai fini ma formation clown, ça devait être le 22 juin. Où je me fais, mais alors, casser en disant « On ne peut pas monter dans des énergies pareilles, etc. etc. » Ah bon ?
Ah oui.
Et puis le 24 ou 26 juin, je ne me rappelle plus exactement, je montais dans l'avion.
Et hop.
Et donc j'arrive, donc hop, je téléphone, je dis « Bonjour monsieur, il paraît que vous avez un guerrier dans votre famille, Nico Rima, je suis venue pour vous écouter, me raconter cette histoire. » Et il me dit « C'est qui le guerrier ?» Je dis, monsieur, c'est Nico Rima, un guerrier au visage à moitié tatoué. Ah, il me dit, Nico Rima, je connais pas. C'est qui t'a dit ça? Et moi, je me vois tout de suite en train de rembourser déjà. Hein.
Oui, la
parce
bourse.
Que, oui, parce que tu dois faire ton truc. Je dis, monsieur, je viens exprès de France pour vous interviewer. Il me dit, c'est qui t'a dit ça en France? Je dis, c'est Jean-Jacques. Oh, Jean-Jacques, et tu l'as cru? Il fait qu'il raccroche.
Là, toi, t'es à Tahiti.
Je suis à Tahiti chez une jeune femme, une conteuse qui s'appelle Léo, et qui me dit, mais Céline, ils sont tous tatoués ici. Et elle me dit, va sur les îles et va. Et donc, je commence à aller d'île en île. Je n'avais pas prévu ce budget-là, mais tant pis. Et je vais d'île en île. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Une petite nana avec son sac à dos. Je dis, je cherche des légendes. Je cherche la légende de Nico Rima. Oh, Nico Rima, il n'est pas chez nous. Mais viens. Et c'est comme
raconté.
Ça que j'allais voir les gens. On m'emmenait voir. Attends, je vais t'emmener voir le grand-père, machin. Il n'y voit plus très bien, mais il connaît les légendes. Et puis, je pars aux Marquises, un mois et demi, parce qu'on m'avait dit que ceux qui se tatouaient le visage, ce n'étaient pas les Tahitiens, mais c'était
les Marquisiens.
Et quand j'arrive aux Marquises, c'est... je bascule tout de suite dans la légende.
C'est pas pour dire avec Céline Ripoll.
On arrive le premier soir, donc bien sûr je n'avais rien réservé, nulle part, j'avais une tente. Je demande s'il y a un camping, puis le gars me dit oui, mais il y a eu la pluie, hein, alors avec ta tente, hein, tu vas faire du canoë. Hein. Alors on m'envoie dans un hôtel, c'était 56 euros la nuit, un truc comme ça. Mais non, là je peux pas. Et puis il me dit attends. Et puis en téléphone, je restais un mois et demi quand même. Puis il me dit, c'est bon, tu vas aller chez Gilles. Je dis, Gilles, je veux pas de problème. Hein. Je veux pas de problème avec sa femme et tout. Il me dit, non, t'inquiète pas. C'est un riri. C'est un homme-femme. Un homme par la stature, mais efféminé. J'arrive chez Gilles.
Parce que toi, t'arrivais, jeune femme, t'avais quel âge?
28 ans.
28 ans, avec tes cheveux, parce que personne te voit là.
Non.
Mais il faut dire ça pour les gens
j'avais
qui nous écoutent.
J'avais les cheveux jusqu'aux pieds.
T'avais les cheveux blonds jusqu'aux pieds.
Jusqu'aux pieds, oui, à l'époque.
Ouais.
Mais je n'avais jamais utilisé mes cheveux pour rien, ni rien. Mmh. C'est des cheveux longs que j'ai toujours eu longs. Sans savoir qu'en Polynésie, on a des cheveux longs.
Mais oui.
Et non, je ne connais rien. La seule chose que je connaissais de la Polynésie, moi j'ai grandi dans le sud-ouest, c'est les matchs de rugby avec
les haka.
Le haka des All Blacks.
C'est ça.
Et puis, moi je suis culture rugby. Mmh. Donc la Polynésie, je ne connais que ça, la culture rugby. Et donc Gilles, il me dit, ah, ce soir, il y a répétition. Ah bon, répétition, très bien. Et là, tout d'un coup, je dis, c'est à quelle heure? Il me dit, t'inquiète, tu vas savoir. Et on discute, et tout d'un coup, boum, papapam, rapapam, papapam, rapapam, mais ça résonne dans toute la vallée. Et puis tout d'un coup, ça résonne, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, ça démarre. Alors on monte dans le pick-up, et puis... Et là, je vois des gens en train de danser.
C'était spectaculaire. Tout le fond, dans le fond, il y avait des gens derrière des paus. Ce sont des tambours tellement grands qu'il faut monter sur des tabourets pour pouvoir frapper dessus. Ce sont des troncs d'arbres creusés avec des peaux de chèvre tendues. Les tambours anciens étaient avec des peaux de requin tendues. Et on frappe pas avec le bout des doigts, on frappe avec toute la main en entier. Et puis entre chaque morceau, on met les mains dans de l'eau fraîche parce que les mains sont explosées. Il y a quelqu'un qui est obligé de tenir le tambour devant parce qu'en frappant, le tambour se déplace.
Ah. Oui, d'accord.
Et puis là, tu as des hommes, des femmes. Alors les femmes, il faut bien penser qu'elles ont la même carrure que les hommes. Des gens avec une puissance. Tout le monde marche, chante, danse. Et moi, je suis complètement bouleversée.
C'est là que tu bascules dans le merveilleux.
Non, je ne sais pas si c'était merveilleux, c'était un autre temps, un autre espace. Et puis je regarde les gens et tout d'un coup, ah oui, maintenant que je te le raconte, je me rappelle, il y en a un qui me regarde dans les yeux, droit dans les yeux. Il avait le visage entièrement tatoué. Et je me dis, lui, il doit connaître la légende.
Oui.
Et donc, la répétition se termine et là, tout le monde se lève, terminé. Tout le monde était parti et Gilles aussi. Et puis tout d'un coup, j'entends et au moment où le cheval passe à côté de moi, chac, de nouveau, ce mec au visage tatoué qui me regarde droit dans les yeux et paf, et qui passe. Oh, je dis, lui, il connaît la légende. Bon, je rentre et puis tout d'un coup... je suis sur le chemin, je vais arriver. Et puis, il y a des gens qui jouent du ukulélé dans leur jardin. Il faut savoir, il doit être minuit, un truc comme ça, c'est la nuit. Il n'y a pas de réverbère, ça aussi. Et puis, je rigole. Et puis, j'entends, c'est quoi qui te fait rire? Et je me retourne. Il était derrière moi, le mec tatoué. Je lui dis, rien, si, je lui dis un truc, mais bon. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je suis venue à la recherche d'une légende, celle d'un guerrier au visage à moitié tatoué, Nicorim. Je lui dis, tu la connais cette histoire? Il me dit, non, Nicorima, non, je ne connais pas. Tu connais des légendes? Il me dit, moi? Oui, je connais. Et on part dans la nuit sur un site, un marais, c'est un site sacré, le site de Pikivehin. On se met au pied d'une statue et toute la nuit, il m'a raconté des légendes.
Ah, wow.
Toute la nuit. Et ça ne s'est jamais arrêté. Ces gens-là m'ont emmené partout, voir les anciens dans les vallées et j'ai reçu des dizaines de légendes. Et puis, mais rien sur Nicorima. Rien.
Tu as fini par la trouver, cette légende?
Non, toujours pas. Ça fait 20 ans.
Oui.
Toujours pas. Mais je pense qu'elle est de Nouvelle-Zélande.
Ah.
Bon, alors là, il y a eu le Covid, j'ai pas pu y aller.
Je suis Daya Demata. Celle qui voit tout. Celle qui entend. Ah ben voilà, les présentations étaient faites. Ils sont restés ensemble, dans le même marais, dans la même maison. Dans la vallée, on a tout de suite vu qu'elle n'était pas de la région. Hein. Mais on n'a rien dit. De toute façon, elle ne faisait pas de bruit. Elle était là. Imoana, quand il allait pêcher, les poissons, il en gardait. Et puis, le temps a passé, la fleur de l'amour, elle n'a pas fané, non, pas du tout. Même au contraire. La petite graine a donné son fruit. Tu sais ce que c'était comme fruit? Un petit garçon! Imoana, il était content. Il est tout de suite allé le présenter à l'océan. Regarde, on l'a appelé Poenaiki. c'était son fils. Oh, ce petit garçon était génial. Il ne pleurait pas. Il chantait. Ah, chaque fois qu'il voulait quelque chose, il avait droit à tout, il goûtait tout. Les plantes, les cailloux, ses pieds. Oui, je vais pas vous le faire, hein, mais bon, c'est dans mes mémoires anciennes. Et pour une Naïki, il était là. Moi, alors pour une Naïki, il était content. Et Imoana, il était fier. Alors, ben, son fils, il lui a appris tout ce qu'il savait. Bonjour au ciel, bonjour au soleil, bonjour à la mer. Il a enseigné à son fils la danse des vagues, comment elles vont, comment elles viennent. Il lui a appris comment pêcher, et puis il lui a bien sûr enseigné, super important, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, la grand-mère, le grand-père, le chef, toutes les règles pour pouvoir vivre dans ce monde qui était là, la vallée de Puamao sur l'île de Himaoa. Et quand Puenaiki était avec sa mère, il lui demandait, Tahia te mata, elle disait, moi je suis Tahia te mata, celle qui voit tout, celle qui entend tout. Oui, je sais tout mon fils, oui. Mais regarde, regarde là-bas dans le ciel, regarde les oiseaux comme ils volent. Regarde, tu as les mêmes ailes, fais comme eux, vas-y, danse. Regarde, n'aie pas peur qu'elles s'en mêlent tes ailes, vas-y. Regarde l'oiseau, il plane quand la mer danse. Et il danse quand la mer est calme. Il plane quand la mer danse. Et il danse quand la mer est calme. Et pour une Naïki, bah, il apprenait tous les oiseaux.
Un extrait de la danse de l'oiseau devant le public du Festival du Légendaire. Un conte que l'on retrouve aussi dans un album compté chez La Martinière Jeunesse. C'est pas pour dire. Céline Ripoll, interviewée par Anne-Gaëlle Goduchaud.
Et à ce moment-là, donc, du coup, toi, tu rentres complètement de plein pied dans cette culture-là. Et tu sens bien?
Ah ben, parfait. Pour moi, c'est parfait. Il fait chaud. C'est tout ce qu'il me faut. Les gens disent oui. On dit oui à la vie.
Les gens sont d'accord pour que tu écoutes et que tu racontes éventuellement ces histoires.
Ah oui, oui, oui. Il y a même des gens qui demandaient à ce qu'on m'emmène pour écouter. Alors des fois, on allait voir...
Vous n'avez pas peur, par exemple, d'être pillé ou... Parce qu'ils ont quand même souffert du pillage culturel.
Ça, c'est clair. Mais moi, je ne venais pas pour les raconter, ces histoires-là. Je cherchais une histoire. Mais c'est comme si tu vas dans un magasin, tu dis « Bonjour, je voudrais une robe ». Ah mais j'en ai pas, mais par contre j'ai celle-là. Et puis ils te font essayer toutes les autres pour que t'en achètes une quand même. Et ben là c'est pareil, je venais chercher une légende, mais c'était pas la leur. Ouais ben nous on en a quand même une, tu vois. Et puis il y avait ce besoin de parler. Et puis j'arrive donc là-bas, on est quand même en 2005, hein. Ça fait 2 ans que Ro'o, ce monsieur dont j'ai parlé aujourd'hui dans le spectacle, est mort. Enfin mort. Il a disparu, alors on ne sait pas. Et voilà. Et si tu veux, c'est comme très troublant. Lui qui a redressé le peuple marquisien par les chants, les danses et les légendes, c'est qui cette nana qui vient écouter des histoires? Qui elle est? Et il y a Déborah, hein, la femme de Lucien, de Ro'o, qui a cette intuition.
Elle dit, il t'envoie.
Tu nous as été envoyé.
Alors toi, tu prends ça comment?
Moi, je ne le comprends pas. Moi, je viens pour Nicorima, je viens écouter... Non, je viens chercher cette histoire. Donc, Et en fait, je ne me rends pas compte que les vieux me donnent leur dernier trésor. Hmm.
Je reçois là des trésors.
La vieille dame dont je parle dans l'histoire, elle me montre les pas de danse et puis elle me dit « Mais tous ceux à qui j'ai montré sont partis. » Elle avait enseigné ce secret à ses filles. Ses deux filles sont mortes dans un accident de voiture et puis Ro'o vient de mourir deux ans auparavant, enfin vient de disparaître deux ans auparavant dans un accident d'avion. Elle se demande si elle a bien fait ou pas de révéler.
Voilà. Toi, à ce moment-là, tu as commencé à danser?
Non.
Tu danses toujours pas?
Non. Mais non, ah non.
Ok, ok.
Mais non.
Et elle te transmet ça quand même. Donc toi, tu t'appliques et tu...
Non, elle me montre. Elle te... Je fais pas. Mm. Je ne me sens absolument pas le droit de faire ça.
Mm. Et en fait, je fais mon voyage, je reviens même la veille du départ à Lo, qui a été un grand...
Combien de temps il dure ce premier voyage?
3 mois au total, mais aux Marquises, 1 mois et demi. Même la veille du départ... Calon me dit, je vais t'offrir quelque chose, viens. Il m'offre un bouquet de plumes de coq et puis il me dit, j'ai un cadeau pour toi, j'ai une histoire.
Oh.
Et il me raconte une histoire qui est un spectacle que je fais aussi qui s'appelle Paevao, la femme de la cascade. Et donc, je rentre en France en septembre, je suis complètement bouleversée, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Mais je n'ai pas Nicorima. Et comme c'était un défi jeune, il fallait faire un retour. Mmh. Et donc, je fais un retour dans ma ville. J'habitais Joinville-le-Pont. Je fais un retour et j'invite les gens de la maison de Tahiti à Paris. Ouais. Et j'invite un anthropologue qui m'avait aidée, Christian Coiffier. Et lui... invite des gens d'un musée qui est en train de se préparer. On est en 2005. Et je croyais avoir 2-3 personnes, j'ai une 40aine de personnes, quasiment tous des Polynésiens. Mmh. Et donc je leur raconte ce que je vous raconte. Mmh. Et là, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ça fait son effet, enfin bon, bref. Là-dessus... On est en octobre. Là-dessus, en novembre, Déborah Kimitété arrive en France. Elle me dit, Céline, je veux te voir. J'ai entendu parler de ce retour. Elle me dit, alors ? Alors, je la retrouve je ne sais où à Paris. Il est tard le soir, je prends le RER, je vais la retrouver, tout ça. Je monte dans une voiture avec elle. Et puis elle me dit, alors, qu'est-ce que tu fais de toutes les histoires que les vieux ont racontées ? Et je lui dis, rien. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, ce serait une offense que moi, Blanche, de raconter leur histoire. Et elle me dit, l'offense, tu vas te tromper. Parce que je lui dis, l'offense, je vais me tromper, je ne vais pas savoir dire. Elle me dit, oui, mais l'offense, ce n'est pas de se tromper. Parce que tu vas te tromper, tu n'es pas polynésienne, tu prononceras mal, etc. Elle me dit, l'offense, c'est de te taire alors que les vieux ont parlé. Maintenant, raconte. Et on arrive à un feu rouge. La voiture s'arrête, donc elle me dit, c'est bon, tu peux descendre. Tu vois, ils sont comme ça, les Polynésiens. Alors, qu'est-ce que je raconte? Et là-dessus, à peine... c'est quelques mois après, d'être en janvier, je devais faire un spectacle pour ma ville à Joinville-le-Pont. Et là, j'avais préparé la structure du conte, les belles phrases, les belles images, tout ça, machin. Et je vais pour aller à Joinville à la médiathèque et ma voiture ne démarre pas. Et donc, j'avais des sacs avec le décor. Hein, tu sais, quand, au début, on se met plein de décors. Pour comme ça, si les gens s'ennuient, ils regardent le décor. Et donc, pour faire apparaître ce que toi, tu ne sais pas faire apparaître dans tes mots, bref. Et donc, je pars à pied jusqu'à la médiathèque, j'arrive une demi-heure avant, j'installe un truc, je transpirais de partout, je mets une espèce de paréo pour faire Polynésie, des fleurs, des machins, tout ça. Je ne savais plus rien, je ne savais même plus ce que j'allais raconter. C'est la date, c'est le jour, c'est maintenant.
Ben oui.
Je mets le pied sur scène sans savoir, et là je me mets à chanter un tahitien inventé, je me mets à danser, je ne sais quoi, et tout me revient, toutes les images me reviennent, L'histoire à peu près me revient et donc je raconte ce que je vois apparaître devant mes yeux. Et je raconte le souvenir de. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et les gens, bravo, oh, c'était magnifique, tout ça. Bon, heureusement qu'il n'y avait pas de Polynésien, là, parce qu'il aurait dit...
Qu'est-ce que c'est que
c'est quoi cette langue,
cette langue.
Mais n'en parlons plus, mon fils. Viens, vole avec moi. C'est tout ce qu'il savait. Et il était heureux. Tout allait bien. Bon, le temps passe. Hein, il a 10 ans. Et un jour, Poenaiki entend dans sa vallée qu'il y a des jeunes guerriers. Oh, tu sais, les jeunes guerriers, ils ont 15-16 ans, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Hein, vous m'avez déjà vu des fois dans d'autres spectacles. Ben voilà, ça commence vers... même des fois un peu plus jeune. Mais bon. Et là, ben, ça fait envie. Alors bon, maintenant, aujourd'hui, c'est canalisé. Hein, tout ça, on fait du rugby, comme ça. On canalise cette force. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas, donc... qu'est-ce qu'on faisait? On allait à la chasse. Mais pas n'importe laquelle. La chasse à l'homme. La chasse aux ennemis. Ouais. Et ces jeunes guerriers-là, ils voulaient se mesurer au plus grand guerrier qu'il y avait. Parce qu'ils voulaient, en fait, je vous dis la vérité, en fait, ça dépend qui tu vas chasser. T'as pas droit au même tatouage. Et c'était important, le tatouage. Parce que qui est-ce qui regarde le tatouage? Ton ennemi, mais aussi celle avec qui tu vas passer tes jours et tes nuits. Donc, il voulait avoir un beau tatouage. Et donc, pour ça, il fallait se mesurer au plus grand guerrier. Où se trouvent les grands guerriers, dites-moi? Voilà, merci Julie. C'est pour ça que je vous raconte toute cette histoire au début, qu'on crée le monde. Nuku-hiva. Exact. Nuku-hiva. Et voilà que Poenaiki, il entend le mot de Nuku-hiva. Ça tremble dans ses oreilles parce que Nuku-hiva, il connaît.
La danse de l'oiseau, Céline Ripoll, au Festival des Légendaires. Vous êtes toujours à l'écoute de ces papourdis.
Et puis là-dessus, on m'appelle et on me dit, on est l'équipe du musée du Quai Branly.
Oui, c'est ça, ça commence.
Il y a un musée qui ouvre, on a entendu parler de vous. Seriez-vous capable de faire la transition entre le public et les œuvres? Je dis oui.
Oh, allez.
Mais bien sûr. Le musée de, pardon? La Porte Dorée? Non. Musée de l'homme? Non. Musée du Quai Branly. Ah, très bien, je ne sais même pas où c'est.
Oui, ça ouvrait juste.
Mais même pas, puisqu'on était en mars, je dois signer même un contrat de confidentialité, je n'ai pas le droit de dévoiler les œuvres sur lesquelles je travaille, etc. Et on fait l'inauguration. Un an, jour pour jour. Je ne sais plus, c'était le 24 ou le 26, il faudrait que je regarde sur juin. Un an, jour pour jour, par rapport au jour de départ. En Polynésie.
Wow.
Exactement.
Pas pour dire, toujours en compagnie de Céline Ripoll.
Donc j'étais à la porte du 222 et là je vois sortir Chirac, Kofi Annan, X personnes dont je ne connais même plus les noms. Et là, on nous dit, parce qu'on était plusieurs, on nous dit, ben, allez-y, rentrez. Et donc, nous avons le droit de rentrer. Et j'inaugure le Quai Branly avec 5 heures de conte marquisien. Et c'est comme ça que je me mets à travailler sur les aborigènes, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Kanaky.
Oui, donc c'était vraiment dans cet Maori, espace polynésien.
Les aborigènes. Ouais. Et on me demande de raconter, de faire le lien. Je ne connais rien, on est d'accord ? Et je me mets à apprendre, à écouter des conférences, à rencontrer des gens de ces peuples, mais aussi des anthropologues, etc., et qui m'expliquent. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais une chance extraordinaire. Je trouvais des histoires. On me disait, tiens, prends le livre d'un tel. Des livres comme ça, j'avais jamais lu de ma vie. Et là, tu ouvres le livre, hop, une histoire. Oh, ben, ça parle du crocodile, c'est exactement ça que je cherchais. Et donc voilà, et j'ai eu cette chance, les choses.
Tu as raconté quoi toutes les semaines pendant des années?
Et après, voilà, pendant des années, je racontais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et puis un jour, donc là, démarre septembre, les scolaires, etc. Hein, on inaugure en juin. Mmh. Ah oui, je ne t'ai pas dit au mois d'août. Je fais Paris-Plage aux couleurs de la Polynésie. Donc je fais un mois à raconter deux fois par jour 60 spectacles. Avec des Polynésiens et puis surtout des danseurs qui disaient « Hey, c'est Céline, c'est pas comme ça le geste, hein, c'est comme ça. Tu vois là ta main, hein ? Non, parce que là, ce geste, ça veut dire autre chose. Que des trucs comme ça. » Et c'était que des jeunes ici. Et tu racontes comme ma grand-mère, hein ? Ma grand-mère aussi raconte ça, mais t'es pas vieille. Et c'était... Je retrouvais ces gens qui m'accompagnaient, qui me disaient « Oui, vas-y, vas-y, le monde comme ça, vas-y !» Parce que tout se danse, tout se chante, même une recette.
Donc là, tu commences à danser, là, pour le coup.
Mais avec eux.
Oui.
Enfin, intuitivement, je bougeais mon corps parce que je les avais vus. Je travaille beaucoup avec ce regard d'empathie.
Parce que là, ce que les gens ne savent pas, ne voient pas, c'est que quand tu racontes, il y a une partie de ta racontée qui est faite avec des mots, une partie qui est faite avec des chants et une partie qui est faite avec ton corps, avec la danse.
Avec la danse, les frappes de pieds.
Et les frappes de pieds, oui.
Et oui, parce que ben, il n'y avait pas les budgets pour être accompagné. Puis moi, je ne savais pas travailler avec des musiciens. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, voilà. Et tout s'est fait sur scène, très peu de répétitions. J'avais un rythme tellement dense, je faisais plus de 20 spectacles par mois. Spectacle ou représentation, bon, chacun le nomme comme il le souhaite. Qui fait que je n'avais pas le temps de répéter. Donc je répétais sur scène.
Alors, tu répétais avec les gens, oui.
Attention, il y a un sérieux, je sais de quelle histoire je parle, je connais ma trame, mais je ne fixe pas une belle phrase. De toute façon, je n'avais pas le vocabulaire à l'époque. Et puis, je teste l'énergie, les rythmes, etc. Et donc, c'était assez explosif au début. Et puis, au fur et à mesure, j'ai ramassé, j'ai concentré...
Surveillait la pierre, a vu sortir du fond du trou des mots. Ces mots sont venus jusqu'à ses oreilles. Et quand il a entendu le nom de la terre, Ya, ça va. Quand il a entendu le nom du père, et quand il a entendu le nom de sa mère, oh ouais, il a couru, il est allé voir le grand Hakahiki. Et il a dit, Hakahiki, il y a là le captif qui chante. Dans sa bouche, il y a le nom de sa terre. Dans sa bouche, il y a le nom de son père. Dans sa bouche, il y a le nom de sa mère. Le nom de sa mère est tout. Personne n'a le droit de le prononcer, sauf toi. Le nom de sa mère, c'est le nom de ta sœur. Celle qui est morte. Il y a des années de cela, c'est ça ce qu'il chante, le captif au fond du trou. Oh purée, le grand Hakaï qu'il a eu, il avait les oreilles rouges. Personne n'a le droit de prononcer ce nom. C'est un nom tabou, interdit de le prononcer. Elle est décédée depuis des années. On n'a pas le droit de parler. Alors il demande que l'on sorte de la falaise, la vaca, tout papaou. La pirogue dans laquelle, la pirogue cercueil dans laquelle elle est posée. Son corps a été embaumé, entouré de bandelettes de tapas. C'est une momie. Hiya ! Qu'on aille chercher sortir de son trou le captif. Que je vois si ce qu'il dit est vrai. On emmène Poinaiki devant le grand Hakahiki. Il regarde ce petit. Et il lui dit, tu as dans ta bouche le nom d'une femme. Tu dis que cette femme, c'est ta mère. Mais c'est un nom tabou. Personne n'a le droit de le prononcer, sauf moi. La nommer serait la faire apparaître. On ne peut pas. Si vraiment cette femme est ta mère, es-tu capable de la reconnaître? Et il ordonne qu'on enlève les bandelettes de tapas qui étaient sur le visage. Et Poinaiki, le petit garçon, il regarde là et il voit dans cette pirogue, il voit sa mère, mais toute maigre, toute sèche, toute momifiée. Il ne comprend pas. Il hurle, il pleure, il se débat. Ce nom-là, tu le connais. Tu le connais. Alors, tu dois connaître son secret.
La danse de l'oiseau, Céline Ripoll au Festival du Légendaire. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas pour dire.
Il y a un moment où tu décides de partir habiter là-bas?
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, on me dit que l'histoire, comme je suis aux Marquises, on me dit l'histoire de Nikurima que tu cherches, on me l'a racontée sur une île qui s'appelle Rapa Nui, l'île de Pâques. C'est une île là-bas. Et donc moi, en 2007, je pars à l'île de Pâques.
Et tu vis, tu t'installes à l'île de Pâques jusqu'à aujourd'hui.
Là.
Ouais.
Donc, je rencontre un jeune homme qui me raconte des histoires. Alors, celui-là,
tu l'as gardé.
Je suis tombée amoureuse de lui, tout ça. Bon, il avait un cheval. Bon, il n'était pas blanc, mais quand même. Et puis, il vient en France. On a une petite fille. Puis, il décide de rentrer chez lui. Alors, bon, comme on avait une fille, je le suis. On a eu un deuxième enfant. Et j'ai commencé à faire ma vie entre l'île de Pâques et la France. Je revenais pour des tournées.
Tu as monté même une maison d'édition, là-bas.
L'île de Pâques, oui.
Qui s'appelle comment?
Moai Édition.
Moai, bah oui, l'île de Pâques quand même.
Bah oui. Parce qu'il y a tout un travail sur la langue à faire qui est très, très, très important.
Oui, tu disais que...
Sauvegarder la langue.
Sauvegarder la langue, ouais.
Et donc voilà, c'est ma contribution. Oh. Et puis, la vie s'invente effectivement au fur et à mesure du temps, du voyage, des apprentissages. Et là, on est resté coincé pendant 3 ans le Covid. Ouais. On ne pouvait ni sortir ni rentrer sur l'île. Et il y a eu un avion humanitaire. J'ai dit, on monte dedans. Allez les filles, on se vole. On est parti. On est en France pour 1 ou 2 ans.
Ouais.
Et c'est surtout l'occasion aussi pour moi de redécouvrir mes histoires avec ma personne qui a vécu beaucoup de choses et qui a mûri. Et de retrouver aussi les amis et le monde du conte, qui est un monde aussi qui a
qui a mûri.
Merci Céline Ripoll.
Merci Anne-Gaëlle.
De ce petit voyage.
Merci à Céline Ripoll de nous avoir fait voyager dans l'univers polynésien et pour nous faire découvrir la culture et les cultures d'Océanie, encore trop souvent méconnues. C'est comme cela que se termine notre émission. Merci à Pascal Folio de nous avoir invités au festival. Merci à Angèle qui a recueilli la parole de Céline Ripoll. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.cestpaspourdire.fr, nous envoyer des commentaires et des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Ciao! I still have a dream.